Pour la première fois dans l'histoire de l'architecture, des architectes sont confrontés à la réalisation de constructions en série d'une ampleur gigantesque, avec un programme identique, enterrer dignement les soldats morts pendant la guerre. Ces milliers de cimetières, ces milliers de gestes répétitifs et pourtant à chaque fois uniques, constituent une œuvre majeure développée sur un quart de siècle. En dépit de leur uniformité, telles les armées et leurs uniformes, les cimetières diffèrent dans leur forme et leur mise en œuvre en fonction d'un langage architectural propre déployé par chaque nation. Ces espaces funéraires nouveaux illustrent à la fois la mort de masse, par leur ampleur, et la mort individuelle, car chacune des tombes est distincte. À la fin de la guerre, sur le front ouest, des milliers de cimetières improvisés, essentiellement organisés par les armées, sont éparpillés de part et d'autre de la ligne de front et à l'arrière, près des hôpitaux. Les travaux s'organisent rapidement. L'ampleur de ces chantiers de construction funéraire a constitué une œuvre sans précédent par rapport aux ouvrages qui avaient été conçus à l'issue des conflits précédents. Au gigantisme de la guerre et des sacrifices humains a correspondu le gigantisme des programmes de cimetières. L'art funéraire a changé d'époque, comme la guerre totale avait fait basculer l'humanité dans une ère complètement nouvelle. Il a fallu œuvrer avec un souci d'efficacité, de rapidité et d'économie pour créer des lieux permettant d'ensevelir des milliers de dépouilles et appropriés à accueillir les familles endeuillées et les pèlerins dans un premier temps. Il s'agissait également d'accueillir une nouvelle forme de tourisme centrée sur la visite des champs de bataille facilitée par la publication de guides dès 1917 et l'apparition d'agences commerciales spécialisées. Dans le même temps, il a fallu tenir compte des contraintes propres au terrain et de faire valoir des partis pris esthétiques, voire politiques, différents selon les pays, reflétant des cultures et des caractéristiques nationales, créant ainsi des atmosphères très différentes. Rendement, productivité, organisation du travail, c'est l'ère de la production de masse et de la standardisation. La rationalisation des formes, des coûts et des temps de production a entraîné une normalisation des cimetières de guerre, quelle que fût leur nationalité. L'utilisation de techniques industrielles de construction a permis l'exercice renouvelé à très grande échelle d'un modèle de construction donné. Cette rationalisation dans la construction est visible dans les cimetières français plus encore qu'ailleurs. L'administration militaire française ayant fait prévaloir une approche administrative d'efficacité par rapport à toute autre considération. La standardisation s'est imposée pour des raisons pratiques, économiques, de rapidité d'exécution et en raison de la dimension des réalisations. Elle a aussi été choisie en pensant à l'avenir, afin d'optimiser les dépenses d'entretien des emblèmes, comme de la végétation, très réduite en général. En même temps, les monuments aux morts, industrialisés également, étaient proposés aux communes sur catalogue. Ce sont les mêmes impératifs d'efficacité et de rationalisation qui ont rapidement conduit à de nombreux regroupements de cimetières, laissant à l'abandon de petits cimetières construits sur site une fois les corps exhumés. C'est le cas des cimetières allemands, de la Tête des Faux dans le Haut-Rhin, aménagés dans les premiers mois de la guerre, où subsistent des stèles ouvragées et rongées par les lichens. Dans ces vastes cimetières, a fortiori dans les nécropoles rassemblant des centaines voire des milliers de tombes, les économies d'échelle ont joué à plein. Les très grands cimetières américains, qui résultent du regroupement de plusieurs dizaines de cimetières, développent une image répétée d'alignement qui semble infinie de croix blanche. Les Britanniques, eux, ont privilégié une approche différente, celle de conserver les tombes d'origine, freinant ainsi les exhumations et réinhumations, et par voie de conséquence, les rapatriements. Il en résulte de très nombreux cimetières relativement petits, qui parsèment les campagnes du Nord-Pas-de-Calais et de la Somme. Ce principe symbolise le respect du haut corps du combattant, qui veut qu'on ne le déplace ni qu'on l'exhume. Le soldat britannique est enterré au plus près du lieu où il est tombé. Certains corps n'ont jamais été déplacés et les tombes sont toujours celles d'origine. les regroupements s'organisant autour pour constituer, in fine, un cimetière. En même temps, les matériaux modernes se généralisent dans la construction avec des produits industriels, parfois préfabriqués, comme le ciment armé, le béton et l'acier. Le béton est déjà utilisé pendant le conflit pour édifier les premiers mémoriaux régimentaires ou des monuments funéraires individuels. Ils offrent des qualités plastiques nouvelles et des possibilités de création originales dont vont s'emparer les architectes dits modernes. Le concours très fréquent au béton, en particulier pour la construction de nécropoles françaises, permet aux architectes et aux maîtres d'œuvre de développer une architecture de volume simple, facile à mettre en œuvre et à reproduire, et au total moins coûteuse. Les réalisations françaises s'inscrivent dans la démarche de l'architecte bâtisseur Auguste Perret, mort en 1954, concilier l'architecture classique et académique avec des techniques modernes. En 1913 déjà, il innove en construction avec son frère le théâtre des Champs-Élysées à Paris. La création de ce théâtre en béton armé marque un tournant dans l'usage de ce nouveau matériau et lui donne ses lettres de noblesse. La mise en œuvre du béton armé par les frères Perret présente des avantages, notamment économiques, c'est un matériau moderne, à la technicité contemporaine, et utilisé comme la pierre, en monolithe. Le béton, c'est de la pierre que nous fabriquons, bien plus belle et plus noble que la pierre naturelle, s'exprimait Auguste Perret. C'est le choix que fait l'administration française pour les croix et les stèles des nécropoles. Après la guerre, en 1919, il construit l'église Notre-Dame du Raincy pour honorer la mémoire des morts. Le béton est laissé brut, nu, comme une pierre noble. Pour autant, Auguste Perret, s'il défend le béton armé, reste académique dans la création artistique et développe une certaine monumentalité. De nombreux architectes s'inspirent de ces principes, comme Léon Azéma pour l'ossuaire de Douaumont, dans la Meuse, mariant le béton et la pierre dans un style monumental. Le terrain bouleversé sur lequel est construit l'édifice nécessite aussi l'usage de ces nouveaux matériaux. 234 puits de béton assurent une stabilité à la construction. L'usage du béton permet une souplesse d'adaptation en même temps que la construction s'élève. La structure modulaire de la voûte de l'ossuaire a permis une réalisation par étapes. La voûte n'ayant ni début ni fin, elle s'ajuste au nombre d'alvéoles nécessaires pour recueillir les dépouilles de plus de 130 000 soldats. Au début du conflit, les Allemands adoptent également le béton armé pour l'imposant monument du cimetière Saint-Charles construit pendant la guerre en 1915 à Sedan et dessiné par l'architecte Ludwig Löhny, professeur à l'école d'architecture de Trèves. D'une facture inspirée de l'architecture classique avec ses colonnes cannelées, l'aspect massif et imposant du bâtiment est souligné par des poteaux d'angles épais et privés de chapiteaux, témoin de la puissance allemande en zone occupée. Le bâtiment est bâti pour durer et souligne l'immortalité des héros tombés au combat. De leur côté, les Britanniques et les Américains s'inscrivent dans une démarche plus conservatrice et préfèrent la garantie d'un matériau dit noble et durable. Les Britanniques optent pour la pierre de Portland, un calcaire monolithe, mat, le plus souvent dans une teinte blanche. C'est un matériau de construction qui provient de l'île de Portland dans la Manche. C'est la pierre utilisée pour le palais de Westminster, pour la tour de Londres et aussi celle du cénotaphe de Whitehall à Londres, taillée par Edwin Lutyens pour commémorer les victimes de la Grande Guerre. C'est la pierre des grands édifices anglais, une pierre choisie pour durer et pour marquer. Les Américains, eux, adoptent un marbre de Carrare à l'aspect laiteux, extrait des carrières de Carrare au cœur des Alpes. La roche est très blanche, est légèrement veinée et ses fins filets colorés lui confèrent un aspect très particulier qui la rend presque vivante. Elle symbolise la pureté des combattants, la justesse de leur combat et leur repos éternel dans la gloire. Ce marbre très dense est réputé immortel. Tous les gouvernements ont partagé une même volonté de mettre sur un pied d'égalité l'ensemble de ceux qui ont combattu et sont morts sous un même drapeau. Les maîtres d'œuvre ont eu le souci d'affirmer cette forme d'égalité entre les morts, par-delà les grades, les origines géographiques ou sociales. Les soldats originaires des colonies, par exemple, ou des nations de l'Empire britannique, et aussi des religions, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les animistes et les sans-religion. Ainsi, le général de division Serret, mort des suites de ses blessures le 6 janvier 1916, repose dans un cimetière français, celui de Moche, dans le Haut-Rhin, sans que rien ne distingue sa tombe des autres. Même croix latine blanche, même plaque d'identification clouée. L'uniformisation des emblèmes participe à l'expression d'égalité de traitement entre les soldats, mais aussi avec les unités de travailleurs qui les soutiennent. Souvent issus des pays de l'Empire britannique et des colonies françaises, travailleurs indiens, africains, notamment du Sud, égyptiens, antillais. Face aux besoins croissants de la main-d'œuvre, l'armée britannique forme le Chinese Labour Corps, un corps de travailleurs chinois non combattants. Près de 2000 d'entre eux ont succombé, bien souvent atteints de maladies, et sont considérés comme morts au combat. Les stèles sont classiques, de la même forme que les stèles de l'Imperial War Grave Commission, et dans la même pierre de Portland. Elles sont doublement gravées en anglais et en caractère chinois. Outre le cimetière chinois de Noyelles-sur-Mer, les morts de cette unité sont enterrés dans de nombreux cimetières, en Belgique ou en France. Bien plus, il arrive que des civils, y compris de très rares femmes, bénéficient d'une tombe au même titre que les soldats. Dans ce même système de Moche, repose une femme, une religieuse, sœur Ignace, non combattante, mais morte de fait de guerre et décédée en 1916 à côté des soldats. Même croix, même plaque d'identification. Honneur exceptionnel pour une femme dans un cimetière français. Les Américains ont accordé cet honneur à toutes les femmes, souvent infirmières ou travaillant pour la Croix-Rouge, mortes de fait de guerre. Elles reposent au milieu des soldats. Seul leur prénom, gravé dans le marbre des croix blanches, permettent de distinguer leur sexe. Dans le cimetière militaire allemand de Morange, est aménagé un carré de tombes civiles des femmes volontaires de la Croix-Rouge. Mais aussi des civils morts pendant l'annexion de la Lorraine sont enterrés près des soldats. Cette uniformisation, qui n'interdit évidemment pas l'existence de signes religieux différents de la croix chrétienne, évite la surenchère de croix et mémoriaux érigés individuellement, inévitablement hétérogènes, qui auraient occulté le caractère militaire de ces cimetières, mais auraient également mis en évidence une distinction sociale entre les mémoriaux sophistiqués et coûteux et d'autres plus modestes. Adoptée par tous comme une sorte de convention fondamentale, cette normalisation participe à l'identité architecturale de ces lieux. On retrouve cette égalité dans la mort dans les cimetières mixtes qui comptent plusieurs nationalités belligérantes et alliées sans distinction notable. Les Allemands ont construit les premiers cimetières mixtes dès le début du conflit, comme le cimetière de Saint-Quentin ou celui d'Assevant en 1916 qui compte essentiellement des tombes françaises et allemandes, mais aussi des tombes britanniques et belges, russes et roumaines. C'est le cas également à Étaples, dans le Pas-de-Calais, où le cimetière britannique compte un carré de tombes allemandes et aussi des tombes de soldats indiens, canadiens, néo-zélandais, de soldats belges et la tombe d'un travailleur chinois. On observe aussi un carré de nursing sisters, d'infirmières, tuées en mission ou décédées des suites de maladies contractées pendant leur service, comme la grippe espagnole. Leurs stèles sont strictement identiques à celles des soldats, hormis l'absence d'un emblème de régiment. Seuls les Américains ont opté pour de très très vastes cimetières de regroupement. Ils sont peu nombreux. Ils honorent uniquement les cimetières de nationalité américaine, en tombes individuelles et sans ossuaire. Les cimetières allemands, sous tutelle administrative française jusqu'en 1966, étaient plantés de croix de bois noircies car trempées dans le bitume pour les rendre imputrescibles. Pour leur aménagement définitif, les Allemands ont retenu le granit, parfois la pierre, pour les croix. Mais c'est la fonte qui reste le matériau le plus employé et uniquement au profit des cimetières de la Grande Guerre. Largement répandues, les fines croix de fonte non polies et à l'aspect irrégulier rappellent celui des croix de bois d'origine. Même teinte, même aspérité, même visuel, le maître d'œuvre a conservé une esthétique identique. A l'inverse, le choix des croix pour les cimetières français, allemands et américains est l'expression d'une forte identité religieuse. La religion chrétienne étant dominante chez les soldats engagés, la croix est facilement approuvée. L'expression de l'appartenance à une autre religion, ou le choix de l'athéisme, de la libre pensée, est également reconnu. Stèles musulmanes, étoiles de David, stèles neutres sont choisies par les familles françaises. Chacun des cimetières, à travers la symbolique et la perception de l'espace, rappelle aux visiteurs le côté sacré de ces lieux. Ce sont des lieux apaisés, qui ne parlent pas directement de la violence ni du désastre de la guerre. Pendant l'entre-deux-guerres, des mouvements artistiques souvent d'envergure internationale marquant l'art et l'architecture. Si l'art déco connaît un âge d'or pendant cette courte période, les architectes n'ont pas emboîté le pas dans l'effort de reconstruction et la réalisation des cimetières. À quelques exceptions près, la crypte de Larsmann Willerkopf, qui constitue l'une de ces exceptions, est un chef-d'œuvre de l'architecte Robert Danis, né en 1879 et mort en 1949. Cet architecte, formé à l'école de Chaillot, est nommé architecte des bâtiments civils du château de Versailles et du Trianon en 1913. À partir de 1920, nommé directeur de l'architecture en Alsace-Lorraine, il s'investit dans la reconstruction. Pour commémorer les combats de Larsmann-Willerkopf, Robert Danis travaille à un projet de crypte, recouverte d'une vaste terrasse point de vue pour abriter les restes de près de 12 000 soldats inconnus. Il le présente à l'exposition des arts décoratifs en 1925, entièrement en béton. Il introduit dans le dosage du porphyre, une roche volcanique trouvée sur les lieux. Les archanges aux ailes déployées du sculpteur Antoine Bourdel, 1861 et mort en 1929, encadrent la lourde grille d'entrée. Gardiens du temple, ces deux bronzes de toute hauteur sont adossés au bâtiment et montent la garde, les mains sur le pommeau de leur gigantesque épée. William Harrison Colichaud, né en 1869 et mort en 1957, qui réalise plus de 200 cimetières, est un adepte du mouvement Art and Craft en Angleterre, qui dénonce les pratiques industrielles au détriment du savoir-faire manuel et artisanal. Pour autant, il n'y fait allusion que dans les murets qui ceinturent les cimetières grâce à la rusticité des schistes et des briques grossièrement mises en œuvre, empruntant ainsi à l'architecture rurale, celle des terroirs. Le langage des cimetières militaires ne s'inscrit pas dans une mouvance ou dans une mode, encore moins dans les influences dû aux commandes que les architectes honorent dans le monde entier. Manifestation intemporelle du sacrifice, l'architecture s'inspire plus simplement des valeurs classiques et conservatrices, toujours avec subtilité et hauteur de vue. Colichaud dessine deux cimetières particuliers, car sans emblème individuel, et fidèle à l'esprit britannique. Un simple cratère, réaménagé, après l'explosion de mines, où les corps des soldats sont restés ensevelis. À Zivikrater, l'architecte n'a pas privilégié d'axe face à l'entrée. La croix du sacrifice trouve sa place à droite de l'entrée, mettant en valeur la figure du cercle parfaite. Pas besoin d'artifices floraux. Le cratère est recouvert d'un gazon sobre et nu. Le monument du cimetière allemand de Saint-Quentin s'accorde aussi sur les valeurs antiques de l'architecture. Valeurs estimées sûres. Construit à la demande de l'empereur Guillaume II, ce dernier confie au peintre-sculpteur Wilhelm von Schneider, né en 1866 et mort en 1942, sa réalisation. Artiste reconnu, il honore de nombreuses commandes publiques jusqu'à la chute de l'Empire. Le monument est une réplique d'un temple grec, avec ses quatre colonnes cannelées, ses chapiteaux doriques supportant un fronton. Devant, les deux élégants hoplites grecs, tout en bronze, veillent sur les tombes et honorent les morts avec des couronnes de laurier à la main. Les statues émanent de la fonderie de bronze de Lorehammer, dans le Brandebourg, célèbre pour la qualité de ses fabrications et son importante production de cloches depuis le XVIIIe siècle. La grande pierre dressée dans le cimetière de Sainte-Marie-aux-Mines provient d'un cimetière provisoire établi pendant le conflit. Elle est sculptée dans une seule roche, un grès rose des Vosges, et se compose d'un empilement de galets sommairement taillés. Au sommet, la croix de fer, le monument de l'ancien cimetière de Bauernstall au Rhône, est également un empilement de pierres, pyramidales cette fois, simplement assemblées et surmontées d'une pierre sphérique. Dans le cimetière de Neuville-Saint-Vaast, le monument au 104e régiment d'infanterie qui reprend les premières phrases du célèbre poème de Ludwig Uhland, « Der gute Kamerad »,« J'avais un camarade », présente un travail de la matière assez similaire, toujours dans une forme pyramidale. Quant à l'architecture monumentale de l'entre-deux-guerres, souvent attribuée à tort au seul pays autoritaire, elle est mise en œuvre entre autres par les Américains, dont le mémorial de la Marne est un parfait exemple. Il est édifié en 1933 par l'architecte français Paul-Philippe Crête, qui est né en 1876 et décédé en 1945, établi dès son diplôme acquis aux États-Unis, le plus grand pays démocratique. Le monument colossal frappe le visiteur par la pression qu'il existe sur lui. À cela s'ajoute la mise en scène paysagère, le sommet d'une colline dominant la vallée de la Marne. Expression moderne de l'art antique, le monument appartient au mouvement Art déco dans sa composition et la simplification de ses formes. Bon nombre de monuments érigés dans les cimetières témoignent d'une étroite collaboration entre les architectes et les artistes, pour être l'essentiel des sculpteurs. D'une façon générale, comme pour les architectes, les sculpteurs, y compris les plus réputés, s'attachent au code traditionnel de leur art et ont un goût prononcé pour la statuaire antique et classique. L'influence des plus grands, comme celle de Michel-Ange, est visible. Du style figuratif et des figures allégoriques reflètent les goûts de l'époque et offrent une lecture aisée au plus grand nombre. Surtout, cette écriture artistique permet d'entretenir le lien avec le pèlerin et le visiteur et d'établir un dialogue avec eux. L'art au service de la commémoration, où les affres de la guerre sont palpables par les représentations de la douleur, de la tristesse et du deuil. Les monuments sont généralement figuratifs, à l'exception des monuments britanniques, comme par exemple le mémorial de Thiepval dans la Somme de l'architecte Lutyens et le mémorial aux disparus de la porte de Ménin près d'Ypres, réalisé par Géréginal de Bloomfield. Cette distance avec la figuration, davantage qu'avec l'art classique, donne à ces monuments un caractère intemporel qui est renforcé par un langage architectural clair, une grande simplicité des volumes, une sobriété des lignes et une unité dans les matériaux, la pierre de Portland. Les sculpteurs qui interviennent pour l'IWGC créent principalement des bas-reliefs pour orner ces monuments. Pour la porte de Ménin, le sculpteur écossais William Red Dick, décédé en 1961, taille un lion couché au sommet de l'arche, symbole de puissance et de ténacité des armées de l'Empire britannique. Il orne les arches des colonnes de laurier et de feuilles de chêne dans un style académique. Ancien combattant, William Red Dick conçoit plusieurs monuments commémoratifs après la guerre. Il réalise entre autres le mémorial de Rick Mansworth en Angleterre, où il reprend la thématique animale d'un lion majestueux terrassant un aigle. Les murs et les voûtes de la porte de Ménin sont recouverts des 55 000 noms de soldats disparus, sans sépulture connue. Comme pour l'immense voûte de l'ossuaire de Douaumont, je rappelle qu'un ossuaire est une tombe commune où on enterre côte à côte les restes des soldats dont on ne connaît pas l'identité. Dans cette ossuaire de Douaumont, chaque nom de cette douloureuse liste permet de sortir un petit peu de l'anonymat les soldats qui y reposent. Lord Herbert Plumer, commandant de la 2e armée britannique pendant la Grande Guerre, écrivait « They are not missing, they are here. » Ils ne sont pas disparus, ils sont ici. Depuis l'inauguration en 1927, le monument n'est pas figé. Car des noms continuent d'être effacés lorsqu'un soldat est identifié ou que sa tombe est connue. À l'inverse, les monuments des dominions de l'Empire britannique sont figuratifs. À Vimy, le sculpteur canadien Walter Seymour Hallward, qui est né en 1876 et décédé en 1955, érige deux immenses pylônes symétriques en pierre calcaire de Trau, extraites des carrières de l'ancienne Yougoslavie. Sur ces pylônes, de part et d'autre, dans une composition travaillée, des personnages expriment par leur expression, leur attitude et leur regard, à la fois l'angoisse de la guerre, la tristesse de la mort des enfants du pays. Les personnages masculins et quelques figures féminines présentent des corps un peu décharnés, des muscles saillants, mais il s'en dégage une puissance et une force qui font penser au marbre d'Auguste Rodin et aux allégories féminines d'Aristide Maillol, notamment celle du monument aux morts de la ville de Céret, dans les Pyrénées. Dans les nécropoles françaises, les artistes sont souvent choisis parmi les artistes locaux dont leur réputation reste régionale. Sauf quelques exceptions notables, comme pour la crypte du monument national du Hartmann Wellerkopf. Grand nom de la sculpture française, Émile-Antoine Bourdelle a travaillé pendant une quinzaine d'années avec Auguste Rodin. Puis il se rapproche peu à peu de la sculpture antique. Il collabore avec l'architecte Auguste Perret pour la décoration intérieure du théâtre des Champs-Élysées, puis après la guerre pour la réalisation d'un bas-relief au-dessus de la porte d'entrée de l'église Notre-Dame du Raincy, représentant une Pietà. Il est l'ami de l'architecte Robert Dany, qui lui demande de participer à la décoration de la crypte dans un style art déco. Outre les monumentaux archanges de l'entrée, il moule, dans le même béton que le bâtiment, une Vierge à l'enfant qui trouve sa place au-dessus de l'autel catholique. Cette statue monolithe, au contour lisse, reprend les formes et les volumes d'une Vierge à l'enfant monumentale qu'il réalise en 1923 sur le rocher de Leichstein en Alsace, en réponse au vœu du maire de la commune de Niederbrook, Joseph Vogt, pour remercier Dieu d'avoir préservé la vallée de la Masvaux et ses usines pendant la Grande Guerre. À Fleury-de-Vendôme, le sculpteur animalier René Paris représente la bravoure des soldats français par un lion couché à la limite de l'expiration. Il est blessé, exténué, à terre, mais il tient encore. Une autre lecture y voit l'artiste représentant le lion bavarois agonisant en signe de sa défaite, parvenue au point extrême de sa conquête. Dans la Marne, une association d'anciens combattants fait appel à un sculpteur renommé pour la construction de l'ossuaire national de Navarin, appelé « Aux morts des armées de Champagne », qui est une crypte sans nécropole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps. Maxime Réal del Sarté est un ancien combattant, il est mutilé de guerre, auteur de nombreux monuments aux morts. C'est aux Éparges qu'il a perdu un bras et donc il dirige une équipe de praticiens qui exécutent ses maquettes sous ses ordres. Ce mausolée de forme pyramidale est surmonté d'un groupe de 3 soldats en pleine action de combat. Ces soldats ne sont pas des inconnus. L'artiste leur donne les traits pour le premier de son propre frère, disparu sur le chemin des dames, pour le personnage central, les traits du général Gouraud, et pour celui de droite, ceux de Quentin Roosevelt, le fils du président, dont l'avion a été abattu le 18 juillet 1918 au-dessus des lignes allemandes. Les fantômes de Paul Landowski s'inscrivent dans cette démarche. Le groupe sculpté en granit rose sur la butte de Chalmont dans l'Aisne domine l'emplacement même des combats. les sept fantômes, yeux clos, semblent descendre, soldats épuisés, hagards, à moitié morts, les quatre terrasses de la butte symbolisant le nombre des années de guerre. Paul Landowski s'investit beaucoup dans la création de monuments aux morts, comme dans les décorations des églises de leur construction. Dans une autre mesure, le mémorial américain de la Marne de l'architecte Paul-Philippe Crête profite de sa position dominante sur la côte 204 à Château-Thierry pour affirmer le caractère puissant de cette architecture monumentale. Pour autant, dans les cimetières américains, les architectes et les sculpteurs cultivent le souci du détail. Cette maîtrise se lit parfaitement et particulièrement dans le cimetière de Saint-Mihiel, œuvre de l'architecte new-yorkais Thomas Harlan Ellett. Dans les cartes murales illustrant les plans du front dans la région, dans les poignées de bronze, des portes des salles d'honneur et de la chapelle qui sont en forme de têtes de soldats casqués, dans les mosaïques délicates et colorées de la chapelle du cimetière, tout est précision. Comme pour toute œuvre architecturale, les paysages et les terrains ont représenté une contrainte et une opportunité pour les maîtres d'œuvre qui en ont tiré parti de manière souvent remarquable. En sachant créer, comme au cimetière allemand de Saint-Marie-aux-Mines, traversé par un petit torrent de montagne, un cadre bucolique propice au recueillement et à la promenade. Les maîtres d'œuvre allemands ont recherché la communion avec la nature et ont choisi de fondre leur cimetière dans leur environnement. La volonté des Britanniques, au contraire, est de créer de toutes pièces l'atmosphère des jardins anglais, quel que soit l'emplacement géographique et l'environnemental des cimetières. Le gazon est toujours impeccable et apaisant. Les fleurs bariolées, comme celles des cottages, notent de couleur et de vie. Cette volonté du jardin retrouvé repose sur l'étroite collaboration des architectes et des jardiniers. Quels que soient les choix retenus, les cimetières entretiennent un lien avec leur environnement immédiat et dans une autre mesure avec le paysage lointain. La dimension et la configuration des parcelles et des terrains, ainsi que leur topographie, varient dans des proportions importantes. Les terrains sont parfois très vastes, comme pour les cimetières américains. Parfois exigus, comme pour nombre de cimetières allemands, les terrains ayant été concédés par la France après 1966. D'autres se situent dans l'immensité d'une plaine comme dans le Nord ou en Champagne, ou au contraire accrochés au flanc de la montagne comme dans le Haut-Rhin, ou encore perdus dans la forêt vosgienne comme la nécropole de Carrefour-du-Chêne. Dans le cas des Britanniques, le choix a été de construire les cimetières au plus près des lieux de combat et de ne pas engager de regroupement comme le firent les Français et les Allemands, ce qui conduit encore aujourd'hui à un très grand nombre de petits cimetières disséminés en plein champ dans les vastes plaines de Flandre, d'Artois ou de Picardie, où toute trace visible des combats a aujourd'hui pratiquement disparu. Les concepteurs ont su tenir compte de l'inscription des cimetières, non seulement dans l'environnement proche, comme on le voit particulièrement dans le petit cimetière britannique de Trouède, dans le plat pays, mais aussi dans le paysage lointain. C'est le cas face à des sites naturels remarquables, comme celui de la baie de la Canche, qui surplombe le cimetière d'Étable. De même pour le cimetière franco-allemand Le Donon, dans le Haut-Rhin. La vue sur le saumon du Donon, théâtre de violents combats en 1914, et la présence fréquente de la brume créent une atmosphère toute particulière. L'aménagement des cimetières dans les années d'après-guerre a été fait sur des terrains gardant les traces des combats, donc des terrains très accidentés, pilonnés, privés de végétation et de forêt, et bien sûr de terres cultivées. Les cimetières provisoires du champ de bataille pérennisé sont ainsi souvent à l'écart des villes et des villages. C'est la situation courante des cimetières britanniques et du Commonwealth. Pour les nécropoles de regroupement, la règle varie selon les États. Les nécropoles américaines sont situées près des lieux d'affrontement, symboliques, et de tombes provisoires, comme l'atteste le cimetière américain Haine-Marne, construit dans la continuité du Bois Belleau, théâtre du premier engagement de l'American Expeditionary Force à la fin mai en 1918. Pour le cas français, aucune règle précise n'a été définie. Dans certains cas, le champ de bataille est intégré sciemment comme écrin de la nécropole de regroupement, comme à la Fontanelle. D'autres sont mises en place près des villages, comme à Rambercourt au Pau. L'une des raisons du rapprochement des villages est la volonté de préserver les terres agricoles, au rendement important. Le développement des infrastructures et l'urbanisation au cours du XXe siècle ont petit à petit gagné sur les terrains environnants, comme on observe au cimetière de Saint-Dié des Tiges dans les Vosges. Le cimetière français occupe une petite butte boisée autour de laquelle s'articule aujourd'hui un lotissement qui peu à peu est venu encercler cette butte et construit à la fin du XXe siècle. Il est devenu un îlot de verdure, point repère central dans un environnement aujourd'hui immédiatement et entièrement bâti. Que reste-t-il de la guerre? Quels signes sont encore visibles? Dans leur apparence et leur organisation, la grande majorité de ces cimetières militaires ne parlent pas des combats, ni de la violence, ni des souffrances endurées. Ils sont des lieux de mémoire qui conservent les restes des soldats morts dans une atmosphère de tranquillité et d'apaisement retrouvé. En zone rurale, la nature a peu à peu repris ses droits. Les arbres ont repoussé, les terres ont été remises en culture et les cimetières militaires s'inscrivent à présent dans un environnement immédiat, profondément transformé comme le paysage plus lointain. Bon nombre de cimetières britanniques qui parsèment la campagne picarde et celle du Nord-Pas-de-Calais sont autant d'îlots posés au milieu des champs où les traces de la guerre ont été gommées, comme les cimetières de Doudkerner, de Trouhède ou celui de Beaulancourt à Ligny-Tillois. Leur implantation suivent la ligne de front aujourd'hui invisible. En revanche, leur proximité géographique et leur densité par endroits sont la preuve de la dureté et de la permanence des combats, comme en témoigne leur nombre autour de faubourgs d'Arras et d'Ypres. À Vimy, les Canadiens ont dessiné un grand parc où les meurtrissures de la guerre sont entretenues de façon à conserver le lien logique entre les territoires, celui de la guerre autrefois et celui de la mémoire aujourd'hui. Les tranchées, les trous d'obus ont été réaménagés et les visiteurs peuvent y cheminer librement. À Beaumont-Hamel, au nord d'Albert, en mémoire des combattants venus de Terre-Neuve, le terrain a été laissé en l'état à la fin du conflit. La terre est chamboulée, crevée de trous d'obus, lacérée de tranchées, de piquets de ferraille pointus comme autant de croix signalant les morts, hérissée de lambeaux de barbelés comme des morceaux de chair.